Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 19h22 et on ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des Idées consacré aujourd'hui à la série événement Laetitia qui sera diffusée tout à l'heure sur France 2 à partir de 21h05. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat a bouleversé la France. Elle avait 18 ans, elle était pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle croise la route du multirécidiviste Tony Meillon, ce qui avait, souvenez-vous, relancé le débat à l'époque sur le suivi des délinquants sexuels et le rôle des services sociaux. Alors les choses ont-elles changé depuis cette tragédie ? Aurait-elle pu être évitée d'une certaine manière ? Comment aussi mieux accompagner les enfants placés dans des familles d'accueil ? On en parle donc ce soir avec Yvan Jablanka, historien, écrivain. Vous êtes l'auteur de Laetitia ou La fin des hommes, livre très fort, récompensé par le prix Médicis et qui a précisément inspiré cette série réalisée par Jean-Xavier de Lestrade. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Ondine Millot. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez suivi cette affaire à l'époque, pour Libération, et vous avez récemment publié « Les monstres n'existent pas », c'est aux éditions au Stock.
Bonsoir.
Et puis Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny entre 92 et 2014, je crois, c'est ça ?
Bien. C'est ça, bonsoir.
Bonsoir monsieur. Et puis Cécile De Oliveira est avec nous par téléphone. Bonsoir madame, vous êtes avocate de Jessica Perret, qui est donc la sœur jumelle de Laetitia, dont on suit également à travers cette série le parcours et la reconstruction dans la série. Merci d'être avec nous et de nous accorder quelques instants. C'est vrai que ce soir, on a aussi envie de vous entendre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord un extrait de cette mini-série de 6 épisodes, dont la diffusion débute donc ce soir sur France 2 à 21h05.
L'adjudant-chef Touchet, division crime violente de la section de recherche d'Angers. On va reconstituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là.
Je ne la retrouverai jamais !
Les tests ADN montrent que les parties du corps appartiennent bien à Laetitia.
Il vous manque des morceaux, hein, dépêchez-vous. À ce rythme-là, il va plus en rester.
C'est la première fois dans ma carrière que je vois un truc pareil.
Pour qu'il y ait du proche, de ce larme !
Voilà pour cet extrait, les 3 premiers épisodes donc ce soir sur France 2 à 21h05 et on est très fiers à Europe 1 d'être partenaire aussi de cette grande soirée. Alors c'est bouleversant de bout en bout, magistralement interprété et au-delà du fait divers tragique, il y est question de la condition des enfants placés, il y est question aussi de la condition des femmes et de la récidive. Qu'est-ce qui vous a le plus touché vous dans cette histoire, Yvan Jablanka, vous avez écrit ce livre, je le disais, qui s'appelle Laetitia ou la fin des hommes et qui a donc inspiré cette série.
Ce qui m'a touché, c'est le destin de Laetitia Perret, une jeune femme de 18 ans qui a été détruite dans un pays démocratique, riche et en paix. Et j'ai voulu comprendre pourquoi et comment.
Qu'est-ce qui vous a décidé à en faire un livre et comment vous avez réussi à convaincre l'entourage ? Parce qu'il y a aussi la sœur jumelle, hein, qui est un personnage très très fort dans le livre, qui a aujourd'hui évidemment du mal à se reconstruire. Comment vous les avez convaincus, comment vous les avez approchés pour pouvoir d'abord écrire ce livre et puis ensuite faire la série qui s'en est suivie ?
J'ai senti la nécessité d'écrire la vie de Laetitia Perret parce que je crois que ce qu'on doit aux victimes et aux disparus, c'est la vérité. C'est la vérité de leur histoire, de leur parcours. Et ça importait pour moi de rappeler que Laetitia n'est pas un fait divers, Laetitia n'est pas un cadavre. Laetitia, oui, c'est une jeune femme qui avait une vie et surtout la vie devant elle. Et donc, j'ai voulu, ça a été un petit peu ma plateforme conceptuelle, si vous permettez ce vilain mot, pour parler d'une vie humaine. Et c'est ce que j'ai dit à Jessica Perret et à son avocate Maître de Oliveira quand je les ai rencontrés pour la première fois en 2014. Je leur ai dit, Laetitia n'est pas un fait divers. Et aujourd'hui, quand on ouvre un journal, on a l'impression que sa vie se résume à sa mort.
Vous dites quelque chose de très puissant au début de votre livre. Vous dites, ce fait divers est exceptionnel à tous égards. C'est une affaire d'État. Vous dites ce mot, c'est une affaire d'État.
Bah, c'est devenu une affaire d'État. Il y a des affaires nationales comme la mort du petit Grégory dans les années 80, mais il y a des affaires d'État. Les affaires d'État, c'est lorsque les plus hautes autorités d'un État, en l'occurrence le président de la République de l'époque et tout son gouvernement, s'emparent d'un fait divers pour le transformer en objet politique. Et en ce sens, Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont fait en quelque sorte campagne, oui, sur le corps de Laetitia.
Et ce qui a suscité une fronde des magistrats totalement inédite, une grève national parce qu'ils ont été mis en accusation et qu'ils posaient à travers cette prise de position le suivi des multirécidivistes. On en parlera évidemment tout à l'heure. On dit, Millot, peut-être un mot de réaction. Vous êtes journaliste indépendante à Libération à l'époque. Vous avez suivi cette affaire de près, hein, les audiences, le procès, l'enquête qui a duré plusieurs semaines. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette série ?
À cette série, je l'ai retrouvée remarquable parce que j'ai retrouvé ce que j'avais suivi. J'ai été aux deux procès, en fait, de Tony Meillon, le premier, l'appel, et puis j'ai été aussi au procès de Gilles Patron. Alors, Gilles Patron, c'est le père d'accueil, entre guillemets, de Laetitia et Jessica, et c'est la personne donc, qui a agressé Jessica, peut-être Laetitia et un certain nombre d'autres enfants placés.
Et on s'en est aperçu a posteriori, voilà. Après l'histoire de l'assassinat et la première affaire, qui est donc le meurtre de Laetitia par Tony Meillon, on s'est aperçu après que ce père d'accueil, qui était éploré, qui organisait les marches blanches, qui a été reçu par le président Sarkozy, était en fait un salaud.
Oui, alors on s'est aperçu effectivement un salaud, je sais pas, mais un agresseur sexuel en tout cas et multirécidiviste pour le coup, qui donc était en tête effectivement de démarches pour demander la peine de mort contre les agresseurs sexuels récidivistes. Et vous me posiez la question sur la série. Je trouve que tout ça est rendu très 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 bien, ouais, quoi. On, ouais, retrouve une vérité, enfin on retrouve une vérité presque plus vraie parfois que dans certains comptes rendus journalistiques.
Cécile de Oliveira, vous êtes avocate de Jessica Perry, qui est donc la sœur jumelle de Laetitia. Peut-être d'abord un mot de Jessica. Comment va-t-elle aujourd'hui? Parvient-elle à se reconstruire?
Jessica parvient à se reconstruire avec beaucoup d'énergie, en prenant une distance importante avec tragédie, une distance géographique, une distance psychique, oui, bien sûr. Après, je ne sais pas si le mot reconstruction est toujours adapté aux êtres humains. C'est un mot qu'on utilise fréquemment après un drame terrible. Je pense qu'il est plus facile de reconstruire un immeuble qu'une personne humaine.
Bien. Vous restez avec nous, madame. Évidemment, on a d'autres questions à vous poser. Dans quelques secondes, juste après la première pause, on va notamment parler de ce débat qui avait suivi cette affaire sur le suivi judiciaire des multirécidivistes. Où en est-on aujourd'hui? Le débat est-il justifié? On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, on est toujours ensemble dans le débat du Club des idées consacré ce soir à cette série événement Laetitia qui sera diffusée tout à l'heure à partir de 21h05 sur France 2. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat par Tony Meillon, le multirécidiviste, a bouleversé la France. Alors c'est vrai que cette série et le livre que vous avez écrit, Ivan Jablonka, qui s'appelle donc Laetitia ou la fin des hommes, pose aussi la question de la protection sociale des enfants, parce que c'est vrai que la vie de Laetitia a été un chaos. Bébé maltraité, gamine oubliée, fillette placée, ado timide. Vous dites d'ailleurs il y a eu des failles dans les services sociaux, ce qui est une forme de violence. Et vous dites son histoire à Laetitia, elle incarne deux phénomènes plus grands qu'elle, la vulnérabilité des enfants et les violences subies par les femmes.
Oui, j'ai essayé d'analyser la vie de Laetitia dans le temps long. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la mort de Laetitia, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait d'histoire, c'est un fait social. Une jeune femme qui et ainsi assassiné à l'âge de 18 ans, c'est pas une anecdote qui mérite un entrefilet, ça mérite au contraire une analyse de long terme. Et il y avait deux aspects de zone de fragilité qui expliquent le destin final de Laetitia. C'est les violences qu'elle a subies en tant que femme, oui, par son père biologique, puis son père d'accueil. Puis,
toute son enfance est un chaos de violences qui s'enchaînent.
Oui, c'est surtout une espèce de continuité, génération après génération, de violence, de négligence, de mépris, puis qui finissent par détruire quelqu'un. Et puis le deuxième aspect, vous le disiez, c'est les failles dans le placement des enfants et une certaine négligence qui l'a entourée. Maintenant, l'État a fait quand même beaucoup pour, oui, elle et sa sœur. L'État a bien réussi. Et puis, il faut croire qu'il y a eu cette faille qui ne pouvait être réparée.
Sur les failles, Jean-Pierre Rosenweg, vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, entre, je le disais, 92 et 2014. Ce sont des sujets, évidemment, que vous connaissez bien. Il y a deux choses qui frappent quand on voit la série et quand on se plonge dans cette affaire de Laetitia. Il y a le délai avant qu'elle soit placée d'abord en foyer, puis ensuite en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on privilégie la famille, alors qu'on sait que son papa est un homme violent, est un homme instable avec qui ça se passe mal. Il a violé la mère de Laetitia, elle est en prison pour ça. Et puis un deuxième élément, quand elle est dans cette famille d'accueil, il y a une main courante qui est déposée par une jeune fille pour agression sexuelle et qui devrait alerter les services sociaux, et il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, cette défaillance des services sociaux?
toujours difficile d'expliquer les défaillances. En sachant au passage qu'on voit les trains qui n'arrivent pas à l'heure et pas les trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est une affaire exceptionnelle dans tous les sens du terme. Alors pourquoi a-t-on mis autant de temps à faire accueillir? Pardonnez-moi de ne pas utiliser le mot placement, mais je pense qu'on place un objet mais qu'on accueille une personne.
On accueille un enfant.
Donc pourquoi a-t-on mis autant de temps à faire accueillir cette jeune fille lorsqu'il y avait des signes de maltraitance? Je n'en sais rien en l'espèce, ouais, ouais. Cette histoire-là. Il faut quand même rappeler la loi. La loi veut qu'a priori, on ne sépare pas parents et enfants, sauf exceptionnellement. Alors tout le débat sur exceptionnel. Est-ce qu'il y avait effectivement, dans cette affaire, et apparemment oui, des éléments qui faisaient que cette jeune fille ne pouvait plus vivre dans sa famille?
Mais on privilégie toujours la famille d'abord.
Non. C'est l'ordre de la loi. L'ordre de la loi, c'est qu'a priori, un enfant est élevé par ses parents. Et que trop souvent, on a vu des enfants retirés à leurs parents, placés, pour reprendre l'expression, à 800 km de chez eux. On a rompu artificiellement le lien parent-enfant quand ça ne se justifiait pas, et les enfants sont devenus orphelins de leurs parents qui étaient vivants. Donc effectivement, on a essayé dans les 50 dernières années de revenir sur tout ça et de dire ce n'est qu'exceptionnellement qu'il faut rompre le lien parent-enfant, le rompre juridiquement, physiquement, sinon le rompre juridiquement.
Ça concerne 300 000 enfants, c'est ça à peu
non,
près
Non. Il y a actuellement... Je vais vous donner les chiffres. Il y a environ 450 000 enfants
450 000.
Qui sont suivis par l'aide sociale enfance. Oui. Le mot suivi est important. Certains sont accueillis physiquement, 170 000. Certains vivent chez eux, mais sont suivis par des éducateurs, 150 000. Et d'autres bénéficient, 150 000 environ, de secours d'urgence et d'allocations mensuelles. Ceux qui sont accueillis physiquement ne sont que 170 000. Sur les 170 000, 2300, 2500 sont ce qu'on appelle pupilles de l'État. C'est-à-dire qu'on a rompu le lien entre eux et leurs parents. Les autres vont, entre guillemets, séjourner à l'aide sociale enfance et ont vocation, pour l'immensité d'entre eux, à retrouver leur place dans leur famille. C'est tout le travail social qui est fait. Regardez ce qui se passe sur les enfants qui reviennent de Syrie.
Oui.
On va les séparer provisoirement de leur mère, mais avec pour projet, éventuellement, de les confier aux grands-parents.
Alors, sur l'affaire Laetitia Cécile de Oliveira, vous êtes l'avocate de Jessica Perret, donc je le rappelle, qui est la sœur jumelle de Laetitia. On évoquait tout à l'heure en plateau... ce qu'écrit Yvan Jablonka dans son livre sur cette affaire hors norme. C'est une affaire d'État, dit-il, à tout point de vue, une affaire d'État parce que le président de la République s'en est emparé avec cette question du suivi des multi-récidivistes, et puis aussi parce qu'il y a eu quand même défaillance des services sociaux. Votre réaction ?
Alors, ma réaction, si vous voulez, concernant ce que vous appelez le suivi des multi-récidivistes, on était dans une situation pour Tony Meillon où un juge de l'application des peines, compte tenu de l'encombrement de son cabinet, avait choisi de ne pas mettre à exécution un sursis mis à l'épreuve concernant une condamnation de Tony Meillon pour un outrage à magistrat. C'est-à-dire que Tony Meillon n'était pas suivi pour des viols pour lesquels il aurait été condamné, mais c'était sur ce sujet très précis. C'est vrai que si on commence à parler, notamment en matière de récidive et de suivi, on est amené à être précis, sinon on est dans une idéologie où on veut faire passer un message sur la dangerosité en général des personnes, et ce n'est pas utile.
À ceci près mettre qu'il était quand même fiché comme délinquant sexuel et n'avait pas signalé son changement d'adresse. Il était donc à ce titre recherché, je crois, depuis le 4 janvier 2011. Le meurtre se produit la nuit du 18 janvier.
Sa compagne avait déposé, son ex-compagne avait déposé une plainte pour viol contre lui dans des conditions très compliquées le 24 décembre 2010.
Oui.
Et il était à ce moment non pas fiché, mais effectivement il devait être entendu dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, Tony Meillon avait été condamné pour de nombreux autres faits extrêmement variés antérieurement.
Oui.
C'était une personne qui, évidemment, était connue, extrêmement connue, des services de police, gendarmerie et de la justice.
Oui, Meillon est âgé de 31 ans quand il commet l'irréparable avec Laetitia. Il n'avait d'ailleurs pas bénéficié de remise de peine. Il avait été condamné 15 fois pour violence, pour des délits et pour le viol d'un co-détenu. On entendra dans quelques secondes Nicolas Sarkozy qui s'était emparé donc de l'affaire concernant la question du suivi des multirécidivistes, et vous me donnerez les uns et les autres votre avis sur la réalité de cette polémique à l'époque et peut-être ce qui a changé depuis. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 19h42, on est toujours en direct dans Europe Soir évidemment avec le débat du Club des idées consacré ce soir à la série événement Laetitia diffusée tout à l'heure à 21h05 sur France 2. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat avait bouleversé la France, elle avait été tuée à 18 ans par le multirécidiviste Tony Meillon. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy avait suscité la polémique car il avait promis des sanctions aux juges en réponse, avait-il dit, à leur faute.
Notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstres, parlant du cas de Laetitia, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute.
Voilà, c'est une faute, Yvan Jablonka. On se souvient du tollé que ça avait suscité, hein. Grève générale des magistrats, ça n'était jamais arrivé.
Il faut se rappeler qu'à cette période, le président de la République attaquait régulièrement les juges. Alors, une chose est de dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y en a eu dans cette affaire. Une autre est, quand on est président de la République, garant de l'indépendance de la justice, de parler d'un suspect comme d'un monstre, qui est un vocabulaire qui me paraît complètement déplacé ici. Ainsi que d'un présumé coupable. On sait très bien qu'il s'agit de présumé innocent.
Yvan Jablonka, il ne s'agit pas de juger les hommes, hein, mais dans la série, d'ailleurs, c'est très bien incarné et très bien joué, le rôle de Tony Meillon. Et quand on connaît le pédigré du bonhomme, on n'est pas loin de la monstruosité quand même.
Moi, mon vocabulaire, c'est de parler des masculinités pathologiques, des masculinités perverses ou toxiques ou criminelles. Mais le terme de monstre, c'est vrai que il n'est pas dans mon vocabulaire, alors même que j'ai travaillé sur la Shoah ou des périodes autrement plus graves.
Ondine Millot, vous êtes journaliste et vous suiviez à l'époque l'affaire Tony Meillon.
Oui, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les monstres n'existent pas ». Et quand j'entends Nicolas Sarkozy dire « il faut protéger la société de ces monstres », mais c'est comme s'ils tombaient du ciel, comme si c'était des aliens, comme si Tony Meillon n'avait pas été fabriqué en fait, par la société. C'est la société qui a fait Tony Meillon. Vous parliez de protection de l'enfance, il était suivi aussi depuis son jeune âge, et très très jeune, on remarque...
D'ailleurs, ça pose la question du déterminisme, qui est absolument horrible, parce que...
Tony Meillon, c'est une escalade par palier. C'est un enfant qui, au départ, est premier de sa classe.
Oui.
Et puis, il y a des violences d'un beau-père, il y a une mère qui le délaisse, il y a une mère qui finit par le placer, par demander son placement. Il y a ensuite de la petite délinquance, et ça va crescendo.
Et quelqu'un comme Tony Meillon, il est récupérable quand il sort de prison. Il a pris perpétuité, 22 ans de sûreté, avec rétention de sûreté. C'est-à-dire qu'on examinera son cas et sa psychologie dans 22 ans pour savoir s'il a effectivement le droit de sortir. Quelqu'un comme ça, quand on voit la série, quand on sait ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui est récupérable.
Le problème, c'est qu'il aurait peut-être fallu aussi agir plus tôt.
Oui.
Et c'est ce que montre bien la série aussi et tout le parcours de Tony Meillon. Après, moi, je pense que personne n'est irrécupérable. Il ne faut surtout pas parler comme ça.
Jean-Pierre Rosenfeig, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Oui, pour rejoindre ce qu'il dit Mme Millot, c'était Ceausescu qui parlait des enfants irrécupérables, et des personnes irrécupérables. Donc, méfions-nous. Non, mais ce film, il pose, et vos questions le montrent, une foultitude de problèmes. Alors effectivement, c'est une affaire politique, quand le président de la République dit « un fait, une loi ». Et quand au passage, il dit « les magistrats sont responsables en se dédouanant et en dédouanant l'État », car qui finance et qui met en place les magistrats, qui finance les travailleurs sociaux à l'époque? Parlons très, très crûment, sur Nantes, chaque éducateur de probation avait, sauf erreur de ma part, 150 à 200 situations à suivre. Et c'est encore l'actualité.
C'est ce qu'on voit dans la série aussi.
Bien évidemment. Donc l'État ne peut pas dire c'est la faute de tel ou tel, désigner tel ou tel n'a jamais résolu le problème. C'était une approche très 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 politique. Alors après, deuxième question que vous posiez, est-ce que ça pourrait se reproduire? Oui, ça peut se reproduire. Est-ce que nous mettons en place le suivi qui est nécessaire pour faire en sorte que ces personnes ne soient plus aussi dangereuses qu'elles l'étaient?
Je parle sous votre contrôle, peut-être pour rappeler pour les auditeurs et les auditrices, il y a plusieurs cas. Sur le suivi des délinquants sexuels, il y a le sursis avec mise à l'épreuve, surveillé par un agent du service pénitentiaire, d'insertion et de probation. Ouais. Le suivi socio-judiciaire qui impose un protocole de soins.
Qui est une peine complémentaire.
Il y a environ 6300 personnes qui en font l'objet. Le placement sous surveillance électronique.
Tout à fait.
Bracelet électronique par exemple. Et pour les cas les plus graves, c'est ce qu'on évoquait à l'instant avec Tony Meillon, la rétention de sûreté. Oui. Moi j'avais oublié que ça existait parce qu'on en débat
2008.
Beaucoup. Mais ça existe.
C'est 2008.
2008.
Encore faut-il que la cour d'assises l'ait rendu possible et encore faut-il qu'une commission de magistrats sur rapport pluridisciplinaire le décide. Mais encore faut-il surtout, et c'est le cœur du sujet qu'on n'aura pas le temps de traiter, que nous ayons les moyens humains en quantité, mais en qualité, pour traiter ce qui sont les cas les plus difficiles. Or, des éducateurs spécialisés, des magistrats spécialisés, des psychiatres spécialisés dans ce domaine, qui est le plus dur de la justice, le domaine mental, le domaine psychologique, la dangerosité. Oui. On n'en a pas les moyens. On est au niveau du néolithique à l'heure actuelle. Or, pour répondre à votre question, définitivement, oui, de gros efforts ont été faits sur 15 ans. Mais ils sont largement en dessous de ce qui devrait être fait. Il faudrait une véritable politique pénale au sens large du terme.
Maître de Oliveira, avocat donc de la sœur jumelle de Laetitia, de Jessica Perret, au moment du verdict, j'ai lu que vous vous étiez mise à pleurer et que vous avez dit ces mots. C'est important de le dire parce que ce sont des mots très forts. Des peines aussi lourdes sont difficilement compatibles avec l'idée que je me fais de la capacité de chacun à changer. S'il avait lâché, en parlant de Meillon, s'il avait cessé de raconter une version scénarisée, il n'aurait pas eu une peine comme celle-là.
Oui, mais je pense qu'effectivement, ces peines qui sont des peines exceptionnelles, puisque au-delà de la réclusion criminelle à perpétuité, Tony Meillon a été condamné de la rétention de sûreté, c'est-à-dire à une peine qui commence à s'appliquer après la peine, ces peines-là sont des peines absolument terribles. Et je ne conçois pas, pour ma part, qu'on puisse décider a priori que quelqu'un aura une peine à exécuter après une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc effectivement, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de la justice, dans laquelle je trouve que les personnes sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'elles soient condamnées, contrairement à M. Sarkozy, qui est assez maladroit d'utiliser ce genre d'expression qu'il n'aimerait pas se voir appliquer à lui-même, je pense.
Oui, c'est vrai qu'il a dit « présumé coupable », on ne l'a pas relevé, mais
ouais,
ça a été
une mauvaise idée.
Un mot qui avait suscité aussi la polémique. Merci, maître, pour ce témoignage. Yvan Jablanka.
Là, on parle beaucoup de crime, du meurtrier, mais moi, ce que je voulais quand j'ai commencé mon enquête, c'est renverser la perspective et écrire non pas un crime, mais une vie. Écrire la vie de la disparue, de Laetitia, et en quelque sorte l'arracher au crime qui l'a détruite. Et donc, c'est vrai que la vie de Laetitia a été courte et tragique, mais ce que j'ai essayé de raconter dans mon livre, et ce que la série montre de manière magnifique, c'est que c'était une jeune femme formidable, pleine de vie, pleine d'avenir, avec une lumière intérieure que tout le monde aimait. Et je voudrais aussi le dire, parce que cette série, c'est aussi une série qui montre que Laetitia a eu sa part de bonheur, sa part de joie, et montre aussi l'extraordinaire courage, force de vie qu'il habitait.
Mais que sa vie s'est arrêtée, évidemment, trop tôt. Merci à tous les trois. Merci, maître, d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Ce qui est fort également, je le souligne dans ce récit, c'est qu'on se place du point de vue du gendarme en charge de l'affaire, qui est un type absolument formidable et qui a envie de résoudre cette affaire et de comprendre aussi ce qui caractérise le personnage de Laetitia au-delà du meurtre. Voilà, c'est à découvrir. Donc ce soir, les trois premiers épisodes sur France 2 à 21h05. On marque une pause, 19h50. On continue avec le Club des idées. On va, tiens, se changer complètement les idées, justement. On va vous raconter le jour où, avec les archives d'Europe Soir, le jour où Johnny Hallyday s'invitait pour la première fois à l'Olympia. Tout autre chose, à tout de suite.